À travers les pérégrinations de David Martin, un fils de manœuvre qui rêve d'une vie plus brillante, l'auteur Yves Thuberg nous relate l'histoire de la classe ouvrière de 1936 à nos jours, en passant par mai 68. Ses espoirs, ses combats et ses résignations dans une France qui, en délocalisant son industrie, condamne le monde ouvrier à disparaître. Sur 4 générations, c'est une saga familiale que nous décrit l'auteur et une critique acerbe du monde politique en général, faite de désillusions. Le crépuscule d'un monde est bien un roman et non pas un cours d'histoire comme on pourrait le craindre. Pas évident pour l'auteur de peindre une fresque familiale et sociale sur plusieurs décennies, dont l'évolution dépend clairement des événements historiques de l'époque, sans tomber dans le piège du catalogue de dates et des coupures de presse. Yves Thuberg nous sert un roman polyphonique à la fois entraînant et instructif, sans jamais tomber dans les clichés qui marquent les différents événements du roman. Au final, Le Crépuscule d'un monde est un livre attachant, sensible et qui fait réfléchir sur le passé et le devenir des classes ouvrières en France. L'auteur était invité sur la 13e édition du Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale d'Arras. J'ai eu le plaisir de m'entretenir avec lui autour de cette saga familiale qui ne manque pas d'audace et de sincérité.
C'est la première fois que vous venez sur le Salon du Livre à Arras ? À
Arras, je suis jamais venu.
Alors, comment vous trouvez notre petite ville ?
Je suis déjà étonné par l'ampleur du salon, parce que c'est très très important comme manif. J'en ai fait d'autres qui sont bien moins étendues que ça. Il y a beaucoup d'animation. La ville, elle est belle. Je ne la connaissais pas, elle est très belle.
Vous présentez l'un de vos livres, une sorte de saga familiale hein, qui s'appelle Le Crépuscule d'un monde, au travers surtout d'un personnage qui s'appelle David Martin, qui retrace un peu les luttes sociales de 36 à nos jours. Alors d'abord, comment vous est venue l'idée de ce livre ?
L'idée m'est venue parce que je suis issu du monde ouvrier et puis j'avais envie d'en parler. Et puis surtout des déceptions qu'il connaît depuis que... particulièrement depuis 81, où on a cru quand même qu'il y avait une espèce de grand soir qui arrivait.
En effet, c'est quand même une critique assez acerbe du monde politique en général.
Oui, remarquez, le monde politique, il décevait déjà, puis il déçoit de plus en plus.
Cette famille qui est tout au long du roman présente, il y a quand même des personnages assez récurrents. Alors on note évidemment parmi les principaux, il y a le pépère Georges qui est l'arrière-grand-père. Pourriez-vous nous dire un petit peu quelques mots sur tous ces personnages ? D'abord on va commencer par lui.
Lui c'est l'ancêtre effectivement, mais lui il a vécu 36. Et 36 moi je ne l'ai pas vécu, j'en ai entendu parler par mes grands-pères. Ça a été peut-être plus que 80, c'était vraiment le plus bel espoir, je pense, de la classe ouvrière dont j'ai entendu parler. Les vieux de 36, ils en parlaient, en 60, ils ont pas eu beaucoup de déceptions, mais quand c'est arrivé, ils avaient encore en eux cet espoir qui a fini par être déçu, quoi, parce qu'après, il y a eu la guerre, et puis tout ce qui en a suivi. Hein.
Ensuite, il y a André, le grand-père, qui est plutôt, lui, l'artisan.
Oui, c'est un artisan. Alors là, je me suis un peu projeté. J'ai moi-même été artisan dans le bâtiment. J'ai fait toute ma carrière comme artisan dans le bâtiment. Et puis c'est un peu le parallèle, même si on est des mondes pas antagonistes, mais pas tout à fait. On est quand même beaucoup parents par le côté ouvrier, par le côté manuel, par le côté très prolétaire, quoi.
Ensuite, il y a Claude, le père de David, qui lui, malheureusement, meurt tout au début du livre.
Oui, remarquez, dans ce genre de choses, là je me suis basé sur des événements qu'on a connus aux usines Peugeot de Sochaux, où il y a eu malheureusement 2 morts à la portière en 1968. Alors évidemment, pour les familles, c'est des drames, pour le monde ouvrier, c'est des drames, et puis on ne devrait jamais mourir, surtout quand on... Français contre Français, ça ne devrait pas arriver.
Ensuite, il y a Alain, le syndicaliste ouvrier.
Le syndicaliste, c'est mon chouchou, parce que c'est le gars, il s'en prend plein la tronche, mais il a tellement la cause ouvrière chevillée au corps que même déçu, il l'abandonnera jamais. On a connu ça parmi certains leaders politiques, rares, mais il y a des gens qui n'ont jamais lâché, qui ont toujours été au bout de leur foi, de leur combat.
René, qui lui est plutôt dans les finances et qui est un peu à part dans ce monde ouvrier justement, où on a l'impression que c'est le seul qui a réussi, mais en même temps, il est plutôt critiqué par toute sa famille.
Oui, c'est celui qui dit le monde ouvrier, on n'y échappe pas, on s'en échappe. Lui, il voulait pas vivre comme ça, il voulait pas d'une vie humble, il voulait pas. Et puis c'était la réussite, ce qu'il appelle lui la réussite, donc matériel, mais à tout prix. Les histoires de lutte, ça l'intéresse que dans la mesure où elle lui profite à lui. Mais puis d'un autre côté, il a quand même jamais pu oublier sa famille, il les aime, mais il comprend pas qu'on se complaise, encore qu'il ne se complaise pas là-dedans, les Martins. Mais pour lui, se contenter d'un bonheur à la petite semaine, c'est pas du boulot, quoi.
Et puis il y a René, qu'on voit presque pas, qui lui est considéré un peu comme le raté.
C'est le raté de la famille, lui. C'est bon, ben, il a pas eu de chance. Sa femme est partie, puis à partir de là, ben, tout a été à volo pour lui, quoi. Il se fout de tout. De tout. Il a plus de femme, il a pas d'enfant, il est à côté de la plaque un peu.
Les femmes aussi qui prennent une part assez importante dans ce bouquin, dont Marie-Ange, la mère de David.
Ben Marie-Ange, celle qui a perdu son mari sur les barricades, si on peut dire. Et puis bon, elle a jamais refait sa vie pour rester avec son fils, jusqu'au jour où se présente un compagnon pour elle, puis que David n'aime pas.
Isabelle, surtout le grand amour de David, donc.
Ah ben Isabelle, là, c'est la grande rencontre de mai 81, quoi. C'est le soir de la grande liesse populaire. Il s'identifie un peu à cette grande victoire, il baigne dedans, que le rencontre baigne dedans, quoi. Il profite de cette... Enfin, il profite pas, je sais pas comment dire, mais leur liesse, elle rejaillit sur la liesse du peuple, et ils s'en baignent pour leur rencontre, quoi. Ça restera un espèce de point d'ancrage.
David qui, lui, part directement à l'armée. Alors, c'est quand même assez bizarre son choix, puisqu'il part en Nouvelle-Calédonie, voilà, tout simplement. Alors, pourquoi l'avoir fait partir assez tôt? Est-ce que c'est aussi parce qu'il cherchait un monde meilleur où il ne se trouvait pas lui-même?
Ben, David, il ne sait pas où il en est, lui. C'est le fils du fusillé des barricades. Il a été élevé tout seul avec sa mère. Son grand-père ne pense qu'au boulot. Il ne veut pas du boulot, il ne veut pas de l'usine, il ne veut pas bosser à l'école, il ne veut rien faire. Et puis... quand il rencontre Isabelle, il a une espèce de sursaut, c'est le coup de soleil de sa vie. Jusqu'au jour où Isabelle décide d'aller faire des études, et puis il se sent abandonné par elle aussi. Et puis puisque tu m'abandonnes, ben moi je fous le camp. Alors donc il devance l'appel et puis il s'en va loin.
Une chose qui est assez récurrente aussi dans votre livre, c'est que tous les personnages à un moment donné vivent des désillusions, et à tous les niveaux.
À tous les niveaux. Moi, je viens du monde ouvrier, je suis du monde artisanal. Et puis, je peux dire que depuis les années 70-75, malgré le grand espoir de 81, je trouve, c'est peut-être une analyse qui m'est personnelle, que les autres ne font pas, mais je trouve qu'on a été de désillusion en désillusion. Et puis, c'est même pas fini.
Comment vous avez travaillé ce livre? Alors vous êtes basé aussi sur des documents d'archives et en même temps aussi de vos connaissances à vous?
J'ai beaucoup de connaissances. Moi, je vous dis, faisant partie du milieu, j'ai des connaissances. J'ai vérifié dans des archives, dans des documents pour coller avec les dates. Mais sinon, tous les événements que je cite, le gars qui se fait saquer à l'usine, tout ça, c'est toutes des choses qu'on m'a racontées. C'est des choses que j'ai vécues par des frères, même par mon père qui a été lui-même à l'usine, qui a été pas mal... sonner.
La visite donc chez le copain qui s'est fait licencier de la boîte pour un vol, qui travaille au noir, il se casse le genou, pas d'assurance. Il y a aussi un constat du travail au noir de l'époque.
Beaucoup. Les gens font comme ils peuvent. Quand il y a plus de solution, les gens font ce qu'ils peuvent. Il y en a qui le font, il y a le travail au noir pour faire du black à tout prix qui échappe à l'impôt, ou bien je ne sais pas. Puis il y a le gars qui bosse au noir parce qu'il ne trouve rien d'autre. Hein. Parce que plus personne ne vous embauchait, plus personne ne payait de charges, ou bien dans son cas, quand on a été licencié pour vol, on ne trouve plus de boulot. Ben il a trouvé un peu les bûcherons, un peu les paysans, un peu, vous voyez. Après, c'est la débrouille. Hein. Quand on est jeté de toutes parts, c'est la débrouille. Hein.
Et après, justement, malheureusement, ce copain, il meurt, hein, et ça déclenche plutôt une réunion syndicale de section assez houleuse, qui montre les difficultés que rencontrent les ouvriers, parce que les ouvriers face au patronat, ça a toujours été un petit peu, évidemment, assez acerbe. Et comment vous avez travaillé ce côté un peu délicat ?
J'ai des copains un peu partout, qui ont quand même fait une carrière pas mal à l'usine, dans les grandes usines. Puis j'ai des copains syndicalistes et tout. On fait des recoupements et puis on voit ce qui se passe. On voit que même l'unité syndicale, même à l'intérieur du même parti, il y a forcément, on appelle ça les différences qui s'expriment, mais il peut y avoir des vraies haines, même dans une seule cellule syndicale, il peut y avoir des haines, il peut y avoir des différences terribles, il peut y avoir de l'incompréhension. Le syndicat, je ne le critique pas, mais c'est pas une masse compacte qui va toujours d'un même élan. Il y a des bagarres intersyndicales, même à l'intérieur d'une seule cellule, même, il y a des bagarres.
À un moment donné du livre, cet indicible rapport amour-haine entre David et Isabelle.
Là c'est le tumulte, parce qu'elle est assez excessive, elle lui dit tout. Et puis lui, il veut bien tout donner, mais il ne supportera pas, par exemple, qu'elle se prépare un avenir plus brillant que le sien. Mais malgré tout, les hauts et les bas, il sait, mais puis ils se retrouvent pas. Ils ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. C'est l'être de leur vie. L'un pour l'autre, c'est. Mais bon, ils finissent par passer sur tout, mais c'est difficile.
Et puis il y a une phrase que j'aime beaucoup également, page 419. Hein. Pendant la guerre, chair à canon, plus de guerre, mais ils ont inventé la chair à usine. Ah. Vous pourriez la commenter, cette phrase ?
Actuellement, quand on voit plus encore aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans, on voit bien que l'ouvrier n'a aucun poids. L'ouvrier, il pèse juste quand il rapporte. On l'exploite, on lui demande des efforts. Maintenant, c'est l'heure de l'effort national, on demande des efforts. Mais quand les usines tournent fort, ça tourne, ils passent pas à la caisse. C'est jamais son tour. Donc c'est de la chair à usine. Les soldats allaient défendre la France quand les généraux se planquaient. Les ouvriers font marcher l'industrie. Quand l'industrie ne marche plus, on les débarrasse, mais les patrons restent là. Avec les gros salaires qu'on connaît, avec toute la vacherie qu'on connaît aujourd'hui.
Et quel est votre regard justement sur le monde ouvrier aujourd'hui ? Il y a beaucoup d'usines qui ferment, et aussi votre regard évidemment sur le gouvernement. Plus rien n'avance depuis un certain bout de temps.
Mon regard sur le monde ouvrier, c'est qu'il est vachement mal barré, parce que la France est tellement désindustrialisée que je suis plus, à mon avis, réaliste que pessimiste, on ne retrouvera pas d'emploi, c'est fini. Puis quant à ce que je pense du gouvernement, j'en pense rien puisqu'il n'y a pas de gouvernement. Je trouve que la France n'est pas gouvernée. Je trouve qu'on a des incapables, c'est tout. Complètement incapables, ils sont complètement indignes de diriger un pays.
Et par rapport justement au monde de la finance,
c'est un secret pour personne que c'est la finance qui gouverne le monde. Mais quand des gens qui prétendent prendre les commandes d'un pays en main vous disent moi, président, mon ennemi, c'est... On ne lui demandait pas d'être l'ennemi de la finance à Hollande, on ne lui demandait pas ça. On lui demandait de travailler éventuellement avec elle pour faire un monde meilleur. C'est pas à peine de déclarer une guerre. On peut bosser sans déclarer une guerre. Moi, j'exige beaucoup des hommes politiques, c'est normal. Ils prétendent qu'ils sont capables. Moi, j'étais artisan dans le bâtiment. Quand je bossais mal, je payais, c'est moi qui payais. J'ai jamais prétendu faire mieux que mon métier, mais mon métier, je l'ai fait bien. Je pense que je l'ai fait bien. Eux, ils le font mal.
Vous vous êtes inspiré aussi de vous-même pour créer André, le grand-père artisan ?
Oui, remarquez, je pouvais pas, enfin, des modèles artisans, j'en connais plein, mais la vie de l'artisan, avec ses hauts, ses bas, ses bons moments, ses mauvais, je la connais. Hein. Donc, je pouvais pas en trouver, j'avais pas à chercher loin pour raconter ce qui se passe. Mon livre, c'est pas un grand champ d'optimisme, hein, j'en suis bien conscient. Je pense quand même que c'est un cri de vérité. Ça fait réfléchir, mais c'est au moins pas s'endormir, quoi. Mais si les jeunes pouvaient faire un peu mieux que ce qu'on a fait.
Vous avez d'autres projets là, de livres en ce moment ?
C'est l'histoire d'un jeune immigré qui débarque en France clandestinement. Mon frère a recueilli un jeune Kosovar il y a une quinzaine d'années, qui s'était barré du Kosovo à pied jusqu'à Marseille. Et puis mon frangin a fait des pieds et des mains pour le faire, pour lui faire avoir des papiers. Pour... Ça a été très dur, mais c'est une belle histoire.
C'était un entretien avec Yves Thuberg, auteur du roman Le Crépuscule d'un Monde. Il était invité sur le Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale d'Arras, 13e édition.